Voilà. Les enfants, je vous demande de vous lever, de rester encore à vos places, parce que je vais aussi prier pour vous tous. Levez-vous, que je puisse vous voir. Tous les enfants, la génération de demain, les enfants, alors les ados, les grands ados, voilà. Eh bien, voilà, Seigneur Jésus, tu les vois, même s'ils sont assis, tu les aimes et je te demande, tu les bénisses avec ce qu'ils vont entendre parler de toi. Que la parole qui soit dite en bas puisse toucher leur cœur. Amen. Alors, soyez bénis. Je vais inviter notre pasteur Marc Luthi.
Ah, sur les oreilles. Ah, bon. Ok, très bien.
Juste encore une information. Le micro que j'ai, on le garde parce qu'on l'utilisera pour le message. Alors, je laisse prendre place.
Oui, merci.
Qui parmi vous connaît Monsieur Marc Luthi, qui puisse... Merci. Alors, je vais vous demander peut-être de vous présenter... Pour ceux qui vous connaissent le moins.
Voilà. Alors, en tout premier lieu, je voudrais vous dire notre joie, à Claire-Lise et moi, d'être avec vous pour vivre ce culte. C'est vrai qu'il y a parmi vous beaucoup de visages que nous connaissons. C'est super, c'est sympa. Et puis, c'est aussi sympathique d'en découvrir de nouveau. Alors, je ne vais pas dire longuement d'où je viens, ce que je fais. Mon accent peut-être trahit le fait que je viens du Jura bernois. J'ai été pasteur, un des premiers pasteurs des assemblées évangéliques de Suisse romande, c'était à Morges. Nous avions une collaboration étroite avec Samuel Grosjean, qui était à ce moment-là votre pasteur. Puis après 12 ans à Morges, j'ai été nommé comme professeur à l'Institut Emmaüs, puis professeur. On est resté 18 ans là sur place. Et puis une dernière étape pastorale dans le Jura bernois, à Reconvilier, où nous avons repris un peu contact avec le terrain, si j'ose dire, pendant 6 ans et demi. Et maintenant, depuis février, nous sommes à la retraite et de retour dans la région, à la Tour de Paix. Voilà, je crois que vous savez l'essentiel. Alors, ma femme est là, donc. Nous avons 3 enfants qui sont mariés. Et chaque couple a eu dans un premier tour une fille et dans le deuxième tour, dans le même ordre, un garçon. J'ai essayé de donner le feu de départ pour le troisième tour, mais ça s'est arrêté là. Voilà, ils vivent un peu dans la région. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons quitté le Jura bernois. Nos enfants sont à Saint-Légier, à la Tour de Paix. Et puis... tout prêt à occuler. Voilà. J'ai répondu à la question, c'est bon. Voilà, c'est vrai que c'est une joie d'avoir ce temps de retraite un peu moins chargé, où nous pouvons avoir un peu plus de temps avec nos enfants et être disponibles à gauche, à droite pour une prédication ou une autre intervention. Alors, comme vous le voyez sur l'écran, le titre qu'on a donné à cette méditation ce matin, c'est « Prière d'illumination ». J'ai vu que dans le programme, on a mis « La prière d'illumination », un peu comme si j'allais traiter un thème. En réalité, je ne vais pas vous parler de ce qu'est la prière d'illumination. Je voudrais avec vous méditer une prière de l'apôtre Paul, qui se trouve d'ailleurs dans l'épître aux Éphésiens et dans les versets 15 à 23 du premier chapitre. Alors je me rends compte que c'est un texte qui est très riche, comme souvent chez Paul, et je demande une grâce au Seigneur pour que cette parole puisse nous atteindre. C'est intéressant de voir que si cet épître a été rédigé alors que Paul était en prison, il la commence par une louange extraordinaire. les versets 3 à 14, vous voyez, ça fait donc 12 versets, forment ensemble une grande louange. Hein. Nous venons d'avoir un temps de louange. Eh bien, Paul ne l'a pas chantée, cette louange, il l'a écrite. Et il l'a écrite d'un seul jet pour parler de l'histoire du salut qui commence dans l'éternité, dans le Père qui nous a aimés de toute éternité, qui s'est poursuivi en Jésus-Christ et qui nous atteint aujourd'hui par le Saint-Esprit. Cette louange a vraiment une dimension trinitaire extraordinaire, à nous couper le souffle. Et c'est tellement vrai que, justement, Paul se dit, le mieux à faire, après avoir écrit une phrase si riche, si extraordinaire, vous la lirez chez vous, ma femme me disait, mais tu devrais la voir quand même. C'est pas possible, le temps manque, on a 20 minutes. Je vais probablement dépasser un peu, mais ce n'est pas grave, j'espère. Alors, justement, c'est une prière tellement extraordinaire, ou une louange tellement extraordinaire, que Paul se dit, la meilleure façon de faire, c'est de prier. Parce que la prière, c'est justement une manière de digérer ce que Dieu nous donne, de se l'approprier. Et Paul va donc prononcer ou écrire une prière. Vous voyez, c'est intéressant parce que dans nos milieux, écrire une prière, lire une prière, c'est souvent mal vu. On se demande si c'est vraiment inspiré. Mais Dieu peut inspirer ce pourquoi on donne du temps dans la rédaction. Paul a écrit une prière. C'est un peu le résumé des prières qu'il faisait monter vers Dieu à l'intention de ses correspondants, des chrétiens d'Éphèse. Alors, je crois qu'on a dit l'essentiel pour qu'on écoute maintenant la lecture de ce texte. Vous l'aurez en même temps sur l'écran. Ma femme fera cette lecture, ça me permet de l'associer. Nous aimons bien servir Dieu ensemble. C'est une petite part, mais il y a toute la prière derrière, il y a tout ce qu'il y a de présent. Mais elle va maintenant nous lire ce passage.
Alors, moi, j'ai plus d'accent que mon mari, mais voilà, c'est moi. Pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet quand je fais mention de vous dans mes prières. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent, et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force, en la faisant agir dans le Christ, lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté. Au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds et ce Christ qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église qui est son corps, lui en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. Seigneur, ta parole est la vérité. Nous le croyons, nous le savons. Nous te remercions aussi pour ton esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Et nous te prions pour que tu ouvres nos cœurs, pour que nous recevions par ta grâce quelque chose de nouveau aujourd'hui, qui nous mette en route, qui nous fasse du bien, qui nous aide à vivre cette prière. Seigneur, merci pour qui tu es, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.
Amen. Merci. Voilà, c'est intéressant de voir que cette prière a une certaine structure. Elle a un début, elle a un milieu, elle a une fin, un aboutissement. Et je vous le signale simplement, nous reprendrons en détail ces différents points, mais sa prière, il la commence par un temps de reconnaissance, de louange à Dieu. Et puis ensuite, il demande pour ses correspondants que non seulement ils soient réjouis de ce qu'ils vivent, mais qu'ils soient encore désireux de progresser. Et je crois que ce matin, le Seigneur veut nous faire progresser là où nous sommes, pour aller plus loin avec lui. Et il désire qu'on apprenne à mieux connaître sa puissance. Et finalement, cette prière, elle va aboutir à un temps de louange, d'adoration, de glorification de Jésus. Alors je vous propose de prendre ces éléments l'un après l'autre. D'abord, ce temps de reconnaissance. Il faut savoir que c'est vraiment une habitude chez l'apôtre Paul, avant toute chose, de louer Dieu et de le remercier pour ce qu'il fait dans le cœur et dans la vie de ses correspondants. Je trouve que c'est merveilleux. Avant de donner des leçons, il commence par dire merci. Et ça, c'est important. C'est une attitude qui est comme un tremplin, qui permet d'aller plus loin. Je pense que quand on sait d'abord reconnaître ce que l'on a, alors on peut ensuite aller plus loin. Et c'est ce que Paul fait régulièrement dans chacune de ses épîtres. Il n'y en a qu'une dans laquelle il ne le fait pas, c'est dans l'épître aux Galates. Mais ici, il rend grâce. Il rend grâce pour leur foi et pour leur amour. Intéressant ces deux mots qui semblent résumer l'évangile, la foi qui permet de saisir les réalités spirituelles et l'amour qui en est comme le fruit, comme la manifestation. Foi et amour sont étroitement unis et indissociables. Tellement que quelqu'un a écrit cette phrase, je trouvais intéressant. Il a dit ou écrit, il faut l'amour pour que la foi ne dégénère pas en impérialisme, en désir de puissance, hein, on voudrait avoir la foi pour s'imposer, les apôtres le faisaient, et il faut la foi pour que l'amour ne se désagrège pas en sentimentalisme. Juste en passant, ces deux dimensions sont intimement liées. Alors Paul rend grâce, on voit qu'il les mentionne dans la prière. Moi je trouve que Paul a vraiment un attachement aux personnes. Il connaît les noms. Moi ce n'est pas mon don. Souvent je dis à ma femme, cette dame c'est qui, ce monsieur c'est qui. Je reconnais le visage, je ne retiens pas le nom. Mais Paul, il en retient toute une série. Par exemple, dans la fin de l'épître aux Romains, il nomme tout un bon nombre de personnes. Il n'a jamais été à Rome, mais il prie pour ces gens. C'est quand même extraordinaire. Il prie. Il prie pour les Éphésiens. Et en quelque sorte, cette prière nous revient. L'avoir mis par écrit, ça lui donne une durée éternelle. C'est une prière qui se poursuit dans un certain sens. Et ce qu'il demande, c'est que les chrétiens auxquels il s'adresse, il faut bien savoir que c'est des chrétiens. Parce qu'on pourrait toujours dire, mais c'est pour les autres gens. J'aimerais bien que celui-là entende ça parce que... Hein. Non, c'est pour nous, maintenant, ici. Cette parole, parce que Dieu veut que nous progressions. Et ce qu'il demande, c'est que par l'action du Saint-Esprit, nous puissions expérimenter des choses nouvelles, être en marche. Vous avez parlé, il a été question ici il y a 2 semaines, je crois, de la prière par l'Esprit. Non seulement la prière le Saint-Esprit nous inspire dans la prière, mais c'est aussi le Saint-Esprit qui va inscrire dans nos vies un peu le résultat de la prière, les grâces de Dieu. C'est lui qui nous fait des dons. Et justement, ce que Paul demande, c'est que par cet esprit, nous soyons renouvelés dans notre sagesse. La sagesse, ce n'est pas uniquement une question de maturité, d'âge. Il ne faut pas forcément attendre d'être à la retraite. Certains le sont et passent toujours à côté. Non, la sagesse, c'est un cadeau de Dieu qui, par l'Esprit, nous rend capables de vivre dans la pratique, dans le quotidien, quelque chose de la réalité de l'Évangile. La sagesse, ce n'est pas les têtes bien pleines, c'est plutôt une tête bien faite. Et puis, il demande aussi un esprit de révélation. Et quand on regarde de plus près, en grec, c'est le mot « apocalypse » qui est utilisé. D'ailleurs, on appelle parfois le dernier livre « révélation ». C'est quoi une révélation? C'est un dévoilement, un voile qui est ôté, qui nous permet de voir clair. Et je trouve que c'est une belle expression parce qu'elle nous rappelle qu'on ne peut rien connaître des choses de Dieu que par révélation. C'est une grâce qui nous est faite. Et Dieu voudrait que le voile qui pourrait encore subsister sur nos yeux soit ôté. Si Paul parle de cette expérience et la souhaite pour nous, comme il l'a souhaité pour les Éphésiens, c'est qu'il a vécu quelque chose de très fort dans ce domaine. Vous vous rappelez, sur le chemin de Damas, il a été ébloui par une lumière tellement forte qu'il en a été aveuglé. Et quand on a prié pour lui, eh bien, des écailles sont tombées de ses yeux. Un voile est tombé. Enfin, il a vu clair, non seulement physiquement, mais spirituellement. Tout ce qu'il avait connu jusque-là, tout à coup, est vu différemment. C'est ce que Dieu veut pour nous. Ce n'est pas que nous soyons aveugles, mais il voudrait qu'on voie plus clair. Ça m'arrive de prendre simplement cette image. Je suis un peu en avance, on peut reculer. Je vais prendre cette image des voilages qu'on a dans nos maisons. Alors c'est sûr, au travers du voile, du voilage mince, on voit à l'extérieur. Mais quand vous tirez ces voiles, vous voyez plus clair. Et dans un sens, ce que Paul veut pour nous, c'est nous dire, mais tirez le voile. Acceptez que l'Esprit vous révèle des choses nouvelles que vous ne connaissez pas encore. Et il demande aussi un esprit d'illumination. La phrase littérale, c'est qu'il illumine les yeux de votre cœur. Une acuité spirituelle, voire clair spirituellement. Ce n'est pas peu de choses. Hein. Et quand il parle du cœur, il faut bien le savoir, ce n'est pas le domaine des sentiments dans la Bible. Le cœur, c'est au centre de la personne, qu'il nous touche au plus profond de nous-mêmes, dans notre volonté, dans notre intelligence. Parce que l'intelligence aussi doit être renouvelée par l'Esprit Saint. Il veut pour nous une intelligence éclairée. Et par rapport à ça, je partage volontiers cette expérience que j'ai vécue alors que j'étais à la faculté de Vaux-sur-Seine pour mes études. Et puis j'avais, je ne sais pas, dans les 25 ans à peu près. Et jusque-là, je ne portais pas de lunettes. Mais quand je me déplaçais dans la région parisienne, j'étais souvent gêné parce que je lisais mal ces grands écriteaux, ils étaient un peu flous, je les voyais un peu au dernier moment et ça devenait vraiment dangereux. Donc je suis allé consulter un ophtalmologue et il m'a mis des verres devant les yeux. Et c'était un vrai miracle pour moi. Vous voyez ces lettres qui vibraient, elles étaient noires, mais elles vibraient tout à coup, elles étaient nettes. Je voyais clair. Et pour moi, vous savez, porter des lunettes, ça n'a jamais été un fardeau. Au contraire, je suis tellement reconnaissant de vous voir clair, net, comme je le vois maintenant. Eh bien, je dirais que spirituellement parlant, Dieu veut mettre des lunettes sur notre nez, des lunettes spirituelles, pour voir encore plus clair. Je n'étais pas aveugle, mais je ne voyais pas très bien. Et Dieu voudrait qu'on voie mieux. Alors ceux qui ont des lunettes, vous êtes reconnaissants, mais Dieu veut mettre des lunettes spirituelles par son esprit sur nous. Alors qu'est-ce qu'il voudrait qu'on voie mieux? Qu'est-ce qu'il voudrait nous révéler? Eh bien, c'est la personne de Jésus-Christ. Le but, c'est de connaître Jésus. Mais de le connaître beaucoup plus personnellement, beaucoup plus profondément. Et c'est une connaissance qui n'est pas un savoir. Il ne s'agit pas d'augmenter tout ce qu'on pourrait dire et écrire sur Jésus, mais c'est de vivre quelque chose de nouveau parce qu'on le connaît. Mieux connaître Jésus, ce sont là les objectifs de Paul dans cette prière. Et il demande en particulier qu'on connaisse mieux l'espérance qui est attachée à son appel. L'espérance. C'est-à-dire que nous ne nous laissions pas enfermer dans les réalités présentes, mais qu'on sache voir au-delà. Son appel nous donne de voir l'avenir et un avenir glorieux avec lui dans sa présence. Et c'est important qu'on ait cette vision-là, une vision d'éternité. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés que nous vivions, pouvoir regarder au-delà, c'est important. Puisqu'on parlait de lunettes, on pourrait dire ici qu'au fond, c'est un peu comme des lunettes à double foyer. Alors moi, j'ai des progressives, hein, mais dans le passé, on avait deux foyers, un pour voir près, un pour voir loin. Et le foyer pour être près, moi je dirais, c'est la foi. Elle permet de faire face aux réalités quotidiennes. Puis l'espérance, c'est pour voir loin. C'est quelque chose qui nous motive et qui nous porte. On le sait bien, quand un jeune est sans espoir, il fait n'importe quoi. Il se détruit. Quand un peuple est sans espérance, il est bloqué. Et c'est important qu'on ait cette espérance dans le Seigneur, qu'on la connaisse. Voilà cette image de la lunette et les lunettes à double foyer. Connaître l'espérance, mais aussi connaître l'héritage qui est le nôtre. Ça veut donc dire, et c'est un rappel indirect, que nous sommes de la famille de Dieu. Nous avons été adoptés comme ses fils et ses filles. Et j'aimerais souligner que c'est une adoption complète, avec toutes ses conséquences. Ce n'est pas une façon de parler. Moi, je crois qu'on entend souvent ça comme une image. Ce n'est pas une image. Vous êtes fils du Père Céleste, plus réellement encore que vous êtes fils de votre Père Terrestre, parce que cette paternité, elle est éternelle. Et c'est tellement vrai que Paul dit que nous sommes héritiers du Père et co-héritiers du Fils. Mais c'est vrai, vous avez raison de manifester, c'est extraordinaire, ça ne va pas de soi. Bien sûr, l'héritage signifie aussi qu'on aura la totalité plus tard, mais c'est aussi un peu ça, l'espérance. Notre héritage, c'est vraiment la gloire éternelle. C'est incroyable, la richesse qui est la nôtre. Et souvent, on vit comme des pauvres petits, hein, comme ces clochards qui ont une fortune quelque part et qui vivent en contradiction avec ce qu'ils sont en réalité. Et puis, il y a une autre dimension qu'il veut qu'on connaisse. Et celle-là, on comprend que chez Paul, ce n'est pas évident de le dire. C'est tellement grand qu'il ne trouve plus les mots. La puissance de la résurrection du Christ. Et on a un peu l'impression que Paul bredouille. Hein. On a parfois des difficultés à traduire un texte, ça arrive souvent. Mais ici, on a l'impression que Paul a même eu de la difficulté de trouver les mots pour le dire. Alors il a accumulé les mots. Ça donne des phrases impossibles, ou presque. Vous voyez, une traduction dans la nouvelle édition de Genève. Et quelle est envers, que vous sachiez, hein, quelle est envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. C'est incroyable. Vous êtes d'accord, je vois qu'ils sourient, ils ont raison. Je vous écrirai une phrase pareille, vous direz, c'est redondant, hein. On redit, mais on ne sait pas comment le dire. Et j'ai mis une autre traduction pour dire, voyez, ça c'est le problème des traducteurs. Et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'opération souveraine de sa force. Voyez, c'est incroyable. Ça nous coupe et le souffle. Et c'est bien ce que Paul veut. Il veut qu'on saisisse. Que la puissance qui a été manifestée en Christ, c'est une puissance comparable à celle de la création, mais je dirais encore plus grande. Sa résurrection, c'est un miracle plus grand que la création, parce qu'il y avait un obstacle à surmonter, celui du péché et de la mort. Cette puissance-là, Dieu en dispose pour nous. C'est ça qui est extraordinaire. Non seulement cette puissance, elle est là, le Christ l'a manifestée, mais il l'a manifesté pour que nous en goûtions, que nous puissions entrer dans cette dimension. C'est pour nous. Pour ça qu'il faut prier. Hein. Quand on voit des dimensions pareilles, on peut dire, Seigneur, mais ça me dépasse. Il faut vraiment que tu m'aides. Par ta parole, par ton esprit, pour que je puisse entrer dans cette dimension. Et finalement, il va, la fin de la prière, il va entièrement la tourner vers la gloire du Christ. Pour qu'on la connaisse vraiment, voyez, il y a double mouvement. Hein. Il y a un mouvement de contemplation, où on entre à dire « extraordinaire, qui est ce Dieu ? Qui est Jésus-Christ au-dessus de tout ?» Et puis en même temps, il y a le désir que ça nous transforme. Donc, ce n'est pas intéressé, ce n'est pas un calcul, ce n'est pas un truc. Mais quand on adore le Seigneur, alors on est aussi transformé. On le verra tout à la fin encore. Alors, quelles sont ces différentes étapes de la gloire du Christ? La première étape, ça a été sa résurrection. On en a parlé. Mais c'est vrai que c'est un nouveau départ. Possible pour tous ceux qui croient dans le Seigneur et qui marquent la victoire du Christ. On en a parlé de sa croix. S'il était resté dans la mort, son œuvre aurait été au fond un bel exemple, mais n'aurait pas eu d'efficacité. Nous n'aurions pas été justifiés. Il a fallu que Christ ressuscité prouve que Dieu a accepté ce sacrifice. Et puis, il est dit qu'il a été assis à la droite du Père. Ça, c'est bizarre. Dans nos églises, on fêtait beaucoup plus la fête de l'Ascension. Nos églises, les assemblées évangéliques suisses romandes, c'était leur nom dans le passé, elles avaient des grandes rencontres à l'Ascension. Le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je me rappelle avoir vécu de ces rencontres. Alors, on dit à quoi bon l'Ascension ? Mais l'Ascension, c'est un moment extraordinaire. Christ est ressuscité, mais il n'est pas mort une deuxième fois. Il est vivant, il a été élevé dans la gloire. Les disciples l'ont vu s'élever le jour de l'Ascension. Et ce n'est pas un déplacement dans l'espace, c'est un déplacement dans la gloire. C'est son élévation qui est célébrée. Il est à la droite du Père. Il règne avec lui. Il partage son autorité. Il a été élevé au-dessus de toute puissance négative, même positive. Il est au-dessus de toutes les forces, justement les forces avec lesquelles nous devons nous battre parfois. À la fin de son épître, Paul dira, « Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les dominations, les autorités dans les lieux célestes. » Eh bien, Christ les a vaincus. Et nous pouvons compter sur cette victoire. Il est au-dessus de tout ce qu'on peut nommer, au-dessus de toute réalité. Il est absolument incomparable. Il est absolument unique. Personne ne peut lui être comparé. C'est ça la gloire du Seigneur. Il est le roi de l'univers. J'aime parfois employer ce mot, il est le cosmocrate. Hein, le cosmos, c'est toute la création. Eh bien, il règne sur le cosmos. Il a tout mis sous ses pieds. C'est d'ailleurs l'accomplissement d'une parole prophétique dans le psaume et qui dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse tes ennemis, ton marche-pied. Hein, » Le marche-pied, c'était une image. Hein, quand les potentats de ce temps-là, ils avaient sous les pieds un marche-pied. Puis qu'est-ce qu'on y représentait ? Les ennemis vaincus. Et ils avaient les pieds sur l'ennemi. Et parfois, on voit aussi des images où le pied est vraiment mis sur le cou, la nuque d'un ennemi. Christ est vainqueur. C'est tout cela qui nous est dit ici. Et la gloire par excellence de Jésus, et ça, c'est peut-être une chose qu'on oublie, c'est d'être lui qui règne au-dessus de tout, d'être le chef et la tête de l'Église. Ça, c'est sa gloire par excellence. Parce que l'Église, elle lui est attachée, c'est son corps. Il ne dit pas ça de l'univers, mais l'Église, c'est son corps, c'est une partie de lui-même. Et l'Église, elle est pleine de sa présence. Et elle déborde de sa présence. D'ailleurs, là, il y a vraiment des difficultés aussi de traduction, mais je crois que celle-ci est bonne. Ce Christ qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église. Il est la tête de son Église. Vous comprenez bien, hein, ce n'est pas l'Église locale, c'est son Église universelle formée de tous ceux qui lui appartiennent. Et il règne. Et l'Église est vraiment le lieu où le royaume est déjà une réalité et où le royaume va aussi, à partir d'où son royaume va se manifester. Alors c'est vrai, j'espère que vous supportez tout ce que j'échange avec vous, mais il y en a, hein. Et il y en a peut-être trop. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? D'abord, je crois qu'on pourrait chacun pour soi reprendre cette prière. Moi, j'aime la prier. Vous savez, les prières de la Bible sont des prières particulièrement riches. Elles peuvent nourrir la nôtre. On peut prier le Notre Père comme une prière qui nous nourrit, bien sûr, pas répétée comme une mécanique, mais quand on entre dans l'esprit de cette prière, alors on est renouvelé, enrichi. Ça m'arrive même au milieu de la nuit, quand je ne dors pas, de reprier le Notre Père, mais de m'arrêter à ces différentes expressions. Et puis, on peut prier cette prière en se rappelant peut-être de deux, trois choses simples. La première, l'importance de la reconnaissance. Vous savez, la prière, ce n'est pas d'abord une demande. C'est un peu ça, hein, l'idée qu'on a. Prier, c'est demander. Notre liste de commissions, vous connaissez, hein? Alors, on peut même biffer quand on a acheté, puis voilà, j'ai fait ma liste. Ça existe aussi. Paul a aussi une liste. Hein? Mais ce n'est pas la première chose qu'il fait. Première chose, il dit merci. Dire merci, ça nous porte. Merci pour tout ce que tu me donnes. Merci pour tout ce que j'ai déjà reçu et compris de toi. C'est bien. Ça ne nous fiche pas des complexes, on n'est pas un pauvre type, ce n'est pas nécessaire. Il a déjà fait des grâces. Deuxième chose qui me semble important, c'est qu'on soit désireux de grandir. Ouais, parce qu'il y aurait l'autre risque, hein, c'est d'être heureux de l'état dans lequel je suis. Hein. C'est dire, là, c'est formidable, je suis comme je sais, Dieu est bon, et puis j'y reste, et puis je ne bouge pas. Dieu nous veut en marche, et son esprit veut nous faire grandir. Et nous faire toujours mieux connaître le Christ, mais d'une manière spirituelle et intérieure qui nous transforme, et le connaître par sa parole et par son esprit. C'est important de souligner le rôle de l'esprit, parce que l'esprit, c'est vraiment le grand applicateur à nos vies. Si on lit la parole de Dieu sans l'esprit, d'abord on ne la comprend pas, et puis deuxièmement, elle reste des phrases qu'on peut répéter, et des fois ça m'arrive de dire un ordinateur aujourd'hui connaît très bien la Bible. Vous lui posez toutes les questions que vous voulez, il y répond. Un connaisseur absolu. Mais ça ne change rien, parce que c'est extérieur. La connaissance que nous devons avoir, c'est celle que l'Esprit nous transmet. Et puis finalement, l'importance de l'adoration. Vous avez vu ce cheminement dans la prière? D'abord reconnaissance, puis intercession, demande, et puis ensuite louange, adoration. Et on voit que c'est vraiment le sommet. C'est le sommet quand nous oublions pour contempler le Seigneur. Quand c'est lui qui prend toute la place. Quand on le contemple dans ce qu'il est, et je le répète, cette contemplation, elle nous transforme. Elle change nos vies, et c'est par ce verset que j'aimerais terminer. Dans 2 Corinthiens 3, verset 18, je ne l'ai malheureusement pas écrit sur l'écran, mais je le lis. « Nous tous, qui le visage dévoilé, on a parlé de voile hein, tout à l'heure, dévoilé en Christ, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. » Quand on le regarde, on est comme un miroir. On reflète cette gloire, et puis en même temps, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Je relis hein, cette phrase, elle est formidable. C'est d'ailleurs, il y a tout un livre écrit sur ce sujet-là. Nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. De gloire en gloire, marque ce progrès, comme par le Seigneur l'Esprit. Le Seigneur nous bénisse et nous aide à vivre la prière comme vous l'avez choisie. Vivre celle-ci, de la porter. Ce qu'il y a de formidable, c'est que je n'ai pas besoin de vous remettre des notes pour continuer. Vous ouvrez votre Bible, vous reprenez ce texte. Et puis si ce n'est pas très clair, vous prenez une deuxième version, une troisième version. On s'y est amusé, ma femme et moi, pour laisser venir cette parole. Et vous savez, ça peut prendre du temps, il faut parfois mâcher la parole, il faut la ruminer, la reprendre. Je peux vous avouer n'est pas la première fois que je parle de ce thème. Mais j'ai dû me battre pour vous en parler aujourd'hui, tu es d'accord, hein? Ça m'a repris du temps. J'ai dû prier, j'ai dû me battre, j'ai dû être dans la présence. Mais comment je dois dire? Qu'est-ce que c'est? Oui, j'ai eu un corps à corps avec ce texte, dans la prière aussi. Et si vous voulez le vivre, moi je crois qu'il faudra continuer de cette manière-là. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je peux éteindre. Oui, voilà, très bien, merci. Je me permets juste de fermer ici.